La conve de Vaut mieux en rire.
La conve de Vaut mieux en rire. Nouvel épisode, nouvelle salve, puisque nous n'étions pas là la semaine dernière. Mais là, on est parti pour de bon. Hein. On est reparti sur de très très bons rails. Et je ne dis pas ça parce qu'on va parler de télévision.
Oh non.
Excellent.
Oui. Donc on est de retour avec un thème exceptionnel.
Très attendu.
On nous en parle depuis très longtemps. Et on a encore une fois des nouveaux entrants dans l'émission et des grands témoins. Voilà. Dont une grande témoin. Voilà.
Alors on rigole pas là.
Non, une grande témoigne.
Pas. A carrier.
Une
a carrier.
Future pointure de la télé.
Mais t'es déjà une star, ma fille. Arrête. Non.
Alors attends, on va présenter déjà les gens. Bon. On a deux personnes qui reviennent dans l'émission de manière très régulière. Maxime, oui. Qui est un grand... T'es un amat de télé, toi, beaucoup.
Bah moi, pour parler de télé, il faut que je reparle de mon père, avant tout.
Oui, pourquoi?
Non, mais en gros, la télé, je l'ai découverte chez moi, ouais. Grâce à mon père.
Mais
en fait,
on
mon père
parler.
Vient d'une famille de 7 enfants.
Ouais.
Et en gros, ils n'avaient que ça.
Mais bien
comme
sûr.
Loisir, tu vois.
Mais c'est d'ores et déjà le sujet de l'émission.
Mais oui,
et
oui voilà. Parce
mais
qu'en oui. fait...
À deux doigts de croire que moi aussi.
Le thème de l'émission, c'est comment la télé fait du commun. Comment la télé crée du commun. Et c'est ce qu'on va discuter.
Est-ce qu'elle le fait encore?
Et ouais. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, la chute de la télévision est aussi concomitante avec la chute de la société? Parce que c'est la perte du commun. Ouais. Bien sûr, mais c'est ça que vous ne voulez pas voir.
J'aurais peut-être un autre avis.
Bah, on va en parler. Mais
c'est vrai que c'est mon CDI. C'est...
L'émission est folle.
Il faut toujours un souffre-douleur dans l'ordre.
Non, mais vous allez voir, l'émission est folle. Ensuite, après Maxime, qui est fan de télé, on a Lucas, qui est vraiment les têtes, les mains, tout dedans. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Donc, bienvenue à toi, t'es de retour infiniment. Dans l'émission. Deux entrées dans l'émission. Tu l'as déjà faite, toi?
Oui, deux fois.
Ah, merde.
Oui, bien sûr, il a même fait un cours de maths sur l'espace, c'est bien toi.
Un retour, Gauthier qui est de retour dans la con.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Et parce que voilà, spécialiste média, podcast média, nanana, donc il est le bienvenu dans une émission sur les médias, bien sûr, sur la télévision.
C'est certainement celui qui regarde le plus
assidûment,
merci, la télévision.
Ses horaires lui permettant.
Très en replay, mais on parlera peut-être aussi des moyens de consommation.
On va parler, oui. On verra ce qu'on va faire. Et enfin, le grand témoin de cette semaine. Lise, bienvenue Lise dans la conve.
Merci.
C'est ta
merci
première conve.
Oui, merci de me convier parce que je serais bienvenue avant.
Non, là, j'avais... Mais, oui.
Non, et puis un truc quoi? De calendrier aussi.
Non, mais parce qu'on l'explique toutes les semaines, mais en fait, on base vraiment le thème selon les personnes qui peuvent composer et sont disponibles. Et donc, on essaie de coller le mieux à vos personnalités. Et on va essayer de comprendre en quoi, cette semaine, vos personnalités se rapprochent de notre thématique, qui est donc la télévision cette semaine. En quoi la télévision évolue, en quoi elle a créé du commun, est-ce qu'elle continue à en créer cette semaine. N'hésitez pas à nous donner aussi votre ressenti directement sur notre page Instagram en réagissant à la conve en story. Hein, vous faites un petit slide et vous nous donnez un petit commentaire. On sera très heureux de le lire. Bon, comment allez-vous là depuis quelques semaines? Est-ce que vous avez bien aimé les épisodes précédents? Vous avez kiffé? Là, il y a eu le bonheur.
Il y a eu un très bon retour.
Non, mais c'est vrai que les retours sont bien. Hein. Franchement,
oui, mais c'est intéressant. Ça change.
Non, on prend un vrai plaisir à faire l'émission. Donc, ça nous fait. Franchement, c'est un vrai, vrai bonheur. Je propose de commencer avec un récit. Moi, j'adore les récits. J'aimerais que vous nous racontiez par quoi est-ce que vous êtes entré dans la télévision et en quoi ça raconte aussi un petit peu notre génération. Parce que je trouve ça passionnant. Maxime nous a un petit peu décrit sa situation. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans ce récit-là? Est-ce qu'il y en a qui sont rentrés par le biais de leurs parents et peut-être. Un côté très populaire de la télévision, Lise.
Oui, bah moi je viens d'une famille de 5 enfants aussi.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus allé dehors. Enfin, moi je faisais beaucoup d'activités sportives et tout. Et pour autant, quand je revenais goûter systématiquement, je me mettais devant la télé. Non, mais je me réveillais avec la télé les week-ends, les samedis matins.
Bien
je
sûr.
Regardais téléfoot, automoto. C'est un peu bercé.
Oui. Bien sûr.
Oui, c'est un peu bercé ma vie. Et les primes du soir après manger, on allait tous regarder la télé parce que je pense. Aussi, venant d'une famille nombreuse, on n'avait pas forcément l'argent d'aller tous au théâtre,
bien
tous
sûr,
voir
oui.
un spectacle. Et du coup, la culture passait entre autres par là. Et je ne viens pas forcément d'une famille populaire, mais on regardait tout type d'émissions.
Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce récit-là? Moi, je me reconnais beaucoup, pour être honnête, parce qu'effectivement, c'est la télévision qui a tout construit en moi, mais vraiment
pareil,
en termes de culture.
Et je m'en rends de plus en plus compte.
Qui a tout construit.
Et la belle télé. C'était pas la télé.
La téloge.
Non, mais voilà.
Non, mais on pouvait regarder Frédéric Taddeï comme la Star Academy.
C'est,
tu vois,
c'est
on
bien ce que je dis.
Oui.
Moi, j'ai commencé à regarder la télé, j'avais 1 an en fait. J'ai appris à parler grâce à Motus, c'est pas une vanne.
Ma mère m'a toujours raconté, bon, j'étais assez en avance en termes de développement, mais j'apprenais à parler grâce à Motus. Et depuis que je suis tout petit, c'est peut-être pas très bon d'ailleurs en termes cognitifs, en vrai. Parce qu'aujourd'hui, on dit les écrans.
Plein de choses.
Mais,
hein.
Mais surtout que c'était
je commence non. toujours un mot par tout.
Non, mais oui, c'est, mais c'était pas une écoute passive. En fait, j'avais mes parents avec moi.
On l'a trait pour les boules.
Non, mais on dit les écrans. À l'époque, t'avais que l'écran de la télé, t'avais pas l'ordi, oui, le téléphone.
C'est bien ce que je dis. Et tes parents étaient derrière quand même pour contextualiser les choses.
On n'avait pas les réseaux sociaux et on parlait le partage le matin à la récré, c'était passé le soir d'avant. Tu vois, sinon, tu loupais quelque chose.
Je pense qu'on peut commencer par cette histoire de miroir entre les réseaux sociaux et la télévision et en quoi c'est très différent. Moi, ce que je pense, et je l'ai déjà expliqué ici, c'est que la télévision ne te donnait pas ce que tu voulais. La télévision te proposait des choses
absolument.
Qui ne te plaisaient pas.
Absolument.
Et aujourd'hui, on est dans une époque où les gens ne tolèrent plus de ne pas aimer quelque chose. Il faut absolument aimer et il faut absolument regarder quelque chose qui te corresponde. Oui.
D'où les algorithmes. On est consommateurs maintenant.
Non, mais justement, les algorithmes.
C'est vrai que maintenant, moi, je ne consomme plus du tout la télé ou même les médias comme avant. C'est vrai que maintenant, il faut vraiment que je sois sûr que ça me plaise pour pouvoir... ne serait-ce que commencer à regarder une série.
Ça crée des espèces de niches où t'es...
Un peu. Oui,
où tu regardes que ce qui t'intéresse et avec le groupe qui t'intéresse.
Il n'y a plus de rencontre entre... Alors, j'aime pas le mot produit, parce que pour moi, c'est de l'art. Hein. Je veux dire, on considère la télé comme le 8e art. Les arts médiatiques, c'est le 8e art, comme la radio. Et c'est un vrai art, en vrai. Il y a un vrai savoir-faire, donc c'est un art. Il n'y a plus de la rencontre basique entre un produit et ta personnalité. Aujourd'hui, avant même d'avoir vu un contenu, on t'a déjà contextualisé, algorithmé.
On sait que tu vas aimer.
Tu sais déjà si tu vas la regarder
ou pas. Sauf qu'en fait, moi, j'ai le phénomène inverse, c'est qu'en fait, plus je vois la prévisibilité des programmes par rapport à moi, moins ils m'intéressent. Limite, je préfère ne pas aimer un programme, au moins j'ai un vrai avis dessus et rencontre.
Tu te rends bien compte que le problème ne vient pas de ces firmes-là qui ont développé ça.
Évidemment.
Le problème vient des gens.
Ah, ça, je suis d'accord.
Les gens ne sont plus curieux.
C'est la servitude volontaire.
Ils ne sont plus capables parce qu'on a normalisé le fait qu'un film puisse être arrêté au bout de 15 minutes.
Bien sûr.
On a normalisé le fait d'arrêter de regarder un produit parce qu'on n'aime pas dès le début.
Bien sûr.
Parfois même, ça dure 10 secondes. Mmh. Sur TikTok, si ça ne te plaît pas au bout de quelques secondes, c'est terminé. Mmh. C'est terminé. Mmh. Alors qu'avant, tu n'avais pas 10 000 choix. Tu avais, pour les plus anciens de nos auditeurs, un ou à trois choix.
Oui, non, mais on en a eu 20. Oui.
Mais je pense que ça dit beaucoup aussi de comment la société évolue.
Totalement.
Rajouter des chaînes, ça a aussi permis d'étendre les possibles et ce que font les plateformes aussi. Enfin, ça a permis de toucher à des sujets de société qui n'étaient pas traités avant, de type l'inclusion, la diversité et tout.
Ça ne serait pas arrivé dans tous les cas
Resté des grands sujets de société. Et là, il y a quand même des programmes aujourd'hui qui nous permettent de nous reconnaître vraiment et de nous sentir nous-mêmes, je pense.
Et tu penses qu'à l'époque, dans les années 90, un jeune de 20 ans ne se sentait pas représenté parce qu'il voyait la télé? Moi, je pense que si. Hein.
Quand il regardait Queer as Folk, c'était hyper concernant et c'était il y a 20 ans, 30 ans. Moi, je suis pas sûr qu'en fait l'hypercommunitarisme de ces programmes-là serve en fait le message global.
Ça, c'est vrai.
Ça ne parle qu'aux personnes qui sont concernées et c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète et ce qui me...
Oui, mais au moins elles sont représentées. Je pense qu'il y avait un manque de représentation.
Oui, mais ça ne... Moi, j'ai l'impression que ces programmes-là ne parlent qu'à ces personnes qui se sentent concernées et on ne crée pas de commun.
Mais alors là, il y a plus un truc peut-être mondial de la représentation qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à des programmes qui viennent du monde entier et que du coup, il y a une représentation... Et on se sent représenté, mais à l'échelle mondiale. Alors qu'avant, c'était...
Parce que je pense que ceux qui sont moins enclins à être réceptifs à ces thématiques-là sont eux-mêmes en permanence exposés à des programmes qui les confortent dans leur haine et qui donc ne les incitent pas du tout à aller découvrir des choses différentes parce qu'ils vont être heurtés. On est heurté d'un tout. J'ai l'impression qu'on est heurté d'un tout. Gauthier, sur cette question, qu'est-ce que toi, ou alors sur ton avis sur la télévision et comment t'es tombé dedans
Moi, j'avais la télé dans ma chambre.
Moi aussi.
C'est ça.
Dès 5 ans.
Alors là, je serais incapable de te dire, mais moi, j'ai des souvenirs où tu regardais le Big Deal à 19h.
Bien sûr, Charmed.
J'étais pas série, j'ai jamais vraiment été série, donc moi j'étais plus le flux déjà à l'époque.
C'est drôle.
Les émissions.
Alors on explique aux auditeurs, on différencie flux et stock, grosso merdo. Le flux, c'est ce qu'on appelle le périssable, c'est-à-dire une émission qui n'a vocation qu'à être diffusée une ou deux fois.
Et encore, c'est plus vraiment ça.
C'est plus vraiment vrai. Le Big Deal, tu le rediffuses pas, c'est pas vrai. Et le stock, c'est les choses rediffusables, les documentaires et les séries.
Oui, globalement, le flux, c'est le divertissement.
La téloche.
Et je faisais beaucoup le magnétoscope, c'est-à-dire que j'enregistrais beaucoup des programmes et je pouvais les revoir en boucle. Je me souviens typiquement l'été, j'avais une cassette VHS. Le samedi, j'enregistrais Fort Boyard, je me le faisais en boucle. Le dimanche, le lundi. Le mardi, je mettais la carte au trésor par-dessus, je me faisais en boucle jusqu'au samedi.
T'aimes vraiment la télé, quoi, pour le replay comme ça.
J'ai regardé la télé et j'ai des souvenirs, j'ai regardé Love Story, j'avais 9 ans.
Incroyable.
Ah, c'est-à-dire que le premier Loft, j'avais 9 ans. Et je me souviens, il y avait le logo moins de 10 ans. Je regardais quand même le Loft.
Ah, waouh.
Mais le Loft, typiquement.
Non, c'était accord parental souhaitable d'ailleurs. C'était
non,
pas moins 10 ans.
C'était déjà moins 10.
C'était déjà moins 10,
c'était
sûr
déjà moins 10, ouais, ouais.
Ah ouais.
Bah non. Ouais, ouais, si, si.
Bah non, moins 10. 2001,
je sais plus. 2001, moins 10.
Ouais, c'était déjà moins 10.
Ah ouais, ça paraît plus loin.
Et c'est pas possible. Et le Loft, par exemple, ça a mal vieilli. Ils ont remis l'intégrale du Loft sur YouTube. Il se passe rien.
Ah oui, non, il y a rien.
Il se passe rien.
Il y a rien.
Tu regardes les quotidiens de Loft Stories, c'est le vide.
Oui, mais en même temps, c'était un peu la
c'était
vraie réalité.
C'était fou de voir des gens vivre en live, ouais. Quoi, juste.
Oui, ouais, ouais. Mais je...
après, c'était après, tu rajoutes des mécaniques, tu mécanises effectivement, enfin, tu guides l'histoire, enfin,
voix,
tu transformes effectivement ton programme, oui. Où il y a rien en histoire.
Il y a tellement de programmes différents aujourd'hui que t'es obligé de faire vivre le truc avec des mécaniques et tout. Tu peux plus juste regarder les gens.
Non, mais c'est une des évolutions intéressantes, c'est que la nouveauté d'il y a 25 ans, c'est devenu le commun, puisque Instagram, c'est le Loft. Snap, c'est le Loft. Mm-hmm. Tout le monde se montre en permanence, donc il n'y a plus
rien de novateur à montrer au quotidien.
Mais oui, pourquoi les gens allument la télé pour voir ce qu'ils voient sur Snapchat avec des gens qu'ils connaissent depuis des années, avec qui ils lient des amitiés, ils ont tout découvert, c'est le Truman Show, ils ont découvert la naissance.
On continue à le vivre, mais juste via d'autres réseaux.
Oui.
Parce qu'on regarde quand même la vie des gens, ce que ça nous
passionne.
Absolument.
La télévision, il faut une plus-value qui est différente et qu'il faut apporter. On va en discuter dans un instant, on va se retrouver dans quelques secondes. On va s'écouter un peu de musique, hein, vous savez, un des particularismes de la conve, c'est qu'on trouve toujours des moyens de s'écouter des golds. Et là, on va s'écouter...
Je fais une précision juste avant d'envoyer la pause.
Dis-moi.
Le fameux accord parental souhaitable s'est terminé en 2002. Donc, tu avais tout à fait raison. Voilà.
Merci.
J'avais besoin de cette
Merci
closure.
Merci, maître Capello.
J'aime les précisions.
On va s'écouter commencer là le générique qui était super là.
Lequel?
C'était pas le Loft, c'était Nice People. Le générique de Nice People.
Alors énorme format dont je rêve de voir le retour. Je trouve
que
ça
fait une saison ce truc.
Je sais. Alors que l'idée est géniale, mettre des gens qui sont pas de l'Eurovision du dating. Ouais, je trouve ça génial. C'est des bonnes idées comme ça qu'on ne voit plus en télé parce que plus. Non.
L'Eurovision du dating, ça existe encore maintenant.
Oui, mais c'est vendu à qui en vrai? À personne.
Bah, aux plateformes.
Oui, ben voilà, mais bon, en fait, moi.
Et surtout que le problème, c'est qu'il faut que les gens parlent anglais, quoi, maintenant, pour essayer de discuter. Non, là, ils parlaient pas la même langue.
Si, ils parlaient la même langue. Ils avaient tous un accent, en gros. T'avais l'accent allemand, l'accent espagnol. C'était une super émission.
Il y a des trucs qui existent où les gens ne parlent pas la même langue et du coup, ils se datent autrement.
Et ben, c'est ce fameux. Cette émission dont le nom de code était Duolingo avait fait la vanne. C'était un poisson d'avril et en fait les gens y ont cru et ils avaient trouvé un titre génial, ça s'appelait Love in Translation.
Ça existe,
mais l'idée est géniale, mais c'est dommage qu'on en parlera, mais que les plateformes soient les seules à y aller.
On en parle juste après, donc là on s'écoute Make Love de Room 5, un sample de Get Down Saturday Night d'Olivier Chetan. Donc on s'écoute ça parce que c'est un énorme kiff, hein. Je pense que vous avez adoré cette chanson et en plus ça boucle avec notre thème. On se retrouve dans un... Énorme chanson, j'adore cette chanson. Le programme est fou, ça me rappelle à tellement de choses, mais c'est une dinguerie. Donc énorme chanson et ça nous ramène à nos souvenirs en télévision. Quel est le souvenir qui nous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'oublierez pas parce que ça est arrivé à un moment de votre vie particulier, parce que ça a été la porte d'entrée vers quelque chose, vers la culture, tout simplement vers votre passion pour la télévision. Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous un de ces moments-là, Lise?
Moi, j'en ai un, mais que je vis encore souvent en le regardant sur YouTube, c'est la victoire de Grégory Le Marchal à la Star Academy.
C'est marrant, ça.
J'ai suivi son odyssée, mais je connais sa chanson Hommage par cœur. Ouais. C'est Alexia Laroche-Joubert qui était la directrice à l'époque, qui m'a donné envie de faire de la télé. J'ai eu envie d'être elle, j'avais envie de comprendre tout ce qui se passait derrière cette émission.
Qui est la grande patronne aujourd'hui du
premier groupe. Qui était la première femme, entre guillemets, au pouvoir en télévision.
Et qui, j'avoue, est ma patronne aujourd'hui.
Mais ouais.
Grégory, c'était Gérard Louvain.
Donc, enfin, d'avoir fait ce chemin,
ça doit être émouvant quand même, parce que c'est vrai que on ne trahit pas de secret, mais c'est vrai que tu la côtoies, etc.
Oui, oui.
Mais au
quotidien, fait qu'elle me tutoie, pour moi, c'est une réussite. Enfin, je me revois toute petite en train de pleurer et de vivre sa victoire, mais comme.
Ouais.
J'étais dedans aussi, quoi. Avec mes parents, tous les vendredis, c'était Pizza Starac et on était très premiers
d'ailleurs. Et là, on était 9 millions à regarder. Enfin, tout le monde.
Il faut se rendre compte à l'époque, même les plus jeunes qui nous écoutent, sur les audiences.
Mais ce qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes qui, après, veulent en faire leur métier. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de monde qui sont entrés dans la télévision parce que ça vient de l'enfance.
Mais c'est comme la musique, c'est un frisson en concert où tu te dis, c'est ça que je veux faire.
Et je vais faire un parallèle que j'ai pas encore fait depuis le début de la conve, mais avec notamment les personnes qui travaillent à Disneyland Paris. C'est des gens qui sont très passionnés par le produit, qui sont fans du produit et qui sont parfois enclins à tous les sacrifices pour pouvoir y travailler, notamment financiers d'ailleurs, parce que ça paye très mal, les pauvres. Et ça me rappelle un peu ça en télévision aussi. C'est-à-dire que la télévision, c'est beaucoup d'artisanat. Hein. Mmh. L'image de la télévision, il y avait du fric, etc., mais ça n'existe plus. Et quand tu vas, si vous allez... j'adore Venance, hein, mais si vous allez sur un tournage, allez voir que en fait c'est beaucoup d'artisanat.
C'est une musique, c'est un orchestre. C'est facile à voir.
Hein. Construction, c'est des bouts de scotch, c'est fantastique. Hein. Mais ta vision est intéressante et donc pour toi c'est Grégory Le Marchal qui fait le.
Oui, parce que ça m'a fait rêver. Et je me suis dit, putain, je vis une émotion telle que j'ai envie de la faire vivre aux gens aussi, quoi.
Ouais. On est vraiment dans l'émotion commune là, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'équivalent d'un concert de quelqu'un.
J'avais l'impression de partager ça avec tout le monde et je me suis dit je ferai ça.
Donc t'as toujours su que tu voulais faire de la télé pour le coup. C'est pas un changement d'avis par rapport à autre chose.
Je voulais faire urgentiste aussi, mais pour moi ça a un lien. C'est que urgentiste, tu sauves la vie de personne et la télé, ça permet à. Il y a une vingtaine de millions de personnes qui regardent la télé tous les soirs.
Ouais. Oui,
donc
t'as
énormément de personnes seules. Et moi, je voulais permettre à des gens de pas être seuls.
Être derrière, surtout.
Je réfléchis comme ça toujours. Oui. Mais
et au-delà de ça, je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme métier. Et la télé permet de vivre toutes les vies, puisque tu présentes tout type de trucs. Du coup, moi, je me suis dit, je vais faire vivre une émotion à des gens qui sont potentiellement seuls. Et en plus, je vais faire tous les métiers du monde, ce que je veux faire. Donc, c'était
ce que tu fais littéralement maintenant.
Ce que je fais aujourd'hui.
C'est intéressant parce que cette vision-là, je pense que Lucas aussi la partage par rapport au podcast, à l'émission qu'on fait. Et on pense souvent, le faisant, aux gens qui sont seuls.
Je le dis jamais, mais c'est vrai. Moi, je me mets toujours à la place. Moi, j'ai toujours eu la chance d'être accompagné par mes parents, par des amis. Voilà. Parce que je suis un être social, j'ai pas de problème avec ça. Il faut pas oublier qu'en France, il y a grosso merdo 15 millions de personnes qui sont seules. Et seules, pas seules une journée, seules, isolées. Quand tu fais un travail médiatique, il faut toujours réfléchir avant tout à ces gens-là. Parce que ces gens-là...
Quand on dit ces gens-là, c'est pas...
Non, mais bien sûr, je dis pas ça. Alors,
ils ont la télé et le facteur.
Ça peut être des gens très riches, d'ailleurs. Enfin, ça n'a aucun rapport avec eux.
C'est
la sociale ou machin.
Pas méprisant.
Pas du tout. Au contraire, justement, quand je fais de la télé et que je pitch quelque chose, je me dis toujours... Quelqu'un qui est seul chez lui, qu'est-ce qu'il a envie de voir à ce moment-là et comment je peux lui faire oublier son malheur ou en tout cas sa vie un peu monotone. Et je pense, et c'est d'ailleurs le problème, c'est que de plus en plus, les gens qui font de la télé, ceux qui sont en chaîne, même en prod, mais un peu moins quand même, ne font plus de la télé pour ces gens-là, en tout cas pour les gens qui sont vraiment sincères dans leur... Ils font de la télé pour Twitter, pour eux-mêmes et pour, grosso merdo, garder leur poste. On ne fait plus de télé en pensant à qui va la regarder. Et pour moi, c'est le sujet principal et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'affect avec la télé. Mmh. Exception faite de Star Academy qui m'a un peu redonné espoir dans cette narration réaliste.
Parce que c'est de l'artisanat. Parce qu'il n'y avait pas un euro.
Mais tant mieux, je préfère une télé cheap qui est sincère.
Il n'y avait pas un euro, donc t'as pas le choix.
Et ça reste mon émission préférée d'ailleurs, la Star Academy. C'est ça qui m'a donné envie de la faire et là, j'avais des étoiles dans les yeux encore cette année, tu vois.
Et ça marche sur les jeunes, je veux dire. Les gamins de 15 ans regardent encore la Star Academy. Donc c'est qu'il y a quand même une puissance de frappe en termes de narration, en termes d'accroche sentimentale, que, pardon, d'autres médias comme TikTok ou Squeezie ne peuvent pas proposer.
Jamais de la vie.
Voilà.
Jamais de la vie.
C'est comme ça. On peut comparer, on peut machin. La vérité, c'est que la puissance de narration de la télé est incomparable. Même par rapport au cinéma, c'est incomparable parce que c'est du réel.
On va parler tout à l'heure de Danse avec les stars d'Internet. Là. On va faire 5 minutes là-dessus.
Intéressant. C'est pas mal. Parce que pas nul.
Oui,
mais aveu d'échec.
Oui, j'adore voir ça. Parce que c'est le retournement de...
C'est moi qui l'ai proposé
il y a 2 ans. Donc.
C'est que ça a été prévu dès le départ que ça allait finir sur TF1.
Mais évidemment.
Parce que c'est-à-dire que quand ils l'ont annoncé, tiens, Michou, t'es sur le plateau.
On en parlera tout à l'heure. C'est super. On en parlera en fin d'émission.
C'est un sujet qui résume tout pour moi.
On en parlera en fin d'émission parce qu'on va ouvrir en fin d'émission sur la suite. Mais là, pour l'instant, on est encore sur vos souvenirs. Et si vous avez d'autres souvenirs, partagez-les, Maxime.
Moi, j'ai le traitement médiatique des attentats de 2001.
Super intéressant.
Bien sûr.
Quand j'avais 7 ans,
le coma
c'est
encore.
Un de mes premiers souvenirs de télé.
Est-ce que t'es comme moi, tu attendais à toi l'octua qui a été déprogrammé?
Non, moi, j'attendais dessins animés du matin.
Pareil.
Et j'avais
non, pas le matin.
C'était vers 17h. Retour d'école.
Non, mais après.
Le lendemain.
Les lendemains. Ah oui, j'ai l'impression que ça a duré des semaines en vrai, oui. Sans dessin animé le matin. Ouais. Pour toi, c'est ton rituel le matin, tu prends tes Chocapic devant tes dessins animés, tu vois. Et j'ai l'impression que ça a duré des semaines et des semaines. Et je me dis que j'ai l'impression que des fois, juste n'importe quelle petite affaire actuelle, ça devient ça sur BFM ou sur... Ça devient...
Mais parce que c'est le média d'info aussi le plus écouté. Enfin, il y a souvent des sondages
j'ai l'impression
qui sortent,
que tu vois,
on s'informe avec attentats, la télé, donc en fait, touche.
Les attentats de 2001, c'était quand même un truc énorme.
Ouais. C'est le plus grand événement du 21e siècle. Hein.
Une semaine après, tu avais les attentats... l'explosion à Toulouse, à ZDF. Ce qui fait qu'a remis une pièce dans la machine médiatique. Et
j'ai l'impression que ce truc qui était hors norme maintenant est devenu la norme.
Dans le traitement, tu veux dire.
Dans le traitement.
Je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord.
Tout rendre absolument genre gigantesque. Ouais, c'est ça. Mais
ce qui m'intéresse dans ce traitement que tu décris, c'est moins le côté massif que le côté il n'y avait pas de débat en fait.
Ah mais non, on vendait pas de l'opinion à l'époque, on vendait des faits.
C'est-à-dire que la même musique était donnée partout.
Et
personne n'avait un moyen de ne penser.
T'avais plus Jada, c'est quoi,
comme Myriam Palomba en fait. Il n'y avait pas Myriam Palomba.
Et je vais te dire une chose, je pense que c'était bien mieux.
Il n'y avait pas Olive Olive.
Ben non.
Il y avait, en gros, quelques années plus tard, il y a eu Bigard qui a dit à demi-mot qu'il pensait que c'était un peu bizarre.
Oui, imaginez le septembre aujourd'hui avec CNews.
Mais non, mais pendant des mois et des années, personne n'a osé dire que c'était pas peut-être pas la vérité.
Et aussi parce qu'il n'y avait pas la place, en fait, il y avait très peu de chaînes. Enfin, tu vois, il n'y avait pas matière à débat.
Mais
là, on a quatre chaînes d'infos différentes avec des avis.
Faut pas se voiler la face, on avait comme une information à l'époque très homogénéisée, parce qu'en fait, elle venait de l'AFP. Toutes les chaînes ont sorti la même info au même moment sur le 11 septembre, le traitement est exactement le même.
Et tu n'avais pas autant d'images que
absolument, parce qu'on était contraint par la technique et par en fait, le fait qu'on ne puisse pas filmer comme ça facilement, même si c'était le début des caméscopes, etc. Mais c'est vraiment la première info comme ça.
Moi, je pense que si la télé est un miroir, c'est l'explication de CNews, parce qu'on a cité CNews, on en reparlera peut-être. Mais en fait, CNews, c'est juste une réponse à ce que les gens pensent. Hein.
Mais évidemment.
Ce n'est pas CNews ne crée rien. Hein.
Ah mais évidemment,
CNews n'est pas une machine à quelque chose.
C'est purement marketing, bien sûr.
Les gens, y a beaucoup de monde à cause des réseaux sociaux, parce que moi je pense que c'est le mal absolu, la base du mal qui ronge la société.
C'est le cœur de la guerre.
Qui développe les mais on parlait la dernière fois, il y a quelques jours, des complotistes anti... Ces gens ne pensaient pas comme ça avant parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et oui, c'était bien quand on ne laissait pas ce genre de personnes penser autrement que TF1 et France 2.
Ça a quand même un écueil, c'est que sur certaines affaires, que ce soit TF1...
Quoi
France
2,
non mais
quoi
pardon, sur des affaires, etc., on n'a parfois pas eu la vérité.
Oui.
C'est vrai.
Pardon, je veux pas...
Et on a fait une erreur parce qu'on a nourri... Le
complotisme. C'est exactement
d'aujourd'hui.
Ce que j'allais dire. On se prend des mauvais traitements de l'époque par confiance ou par orgueil, on se le reprend dans la gueule fois mille.
Oui. L'Irak, par exemple.
Oui,
quand on a dit, il y
avait des
armes.
C'est un exemple, mais il y en a d'autres.
Tous les médias l'ont dit. Encore bien avant.
Bien sûr.
Évidemment.
Tous les médias, quand les médias ont dit que le nuage s'était arrêté à la frontière française, quand on a dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak pour justifier ce qui crée la situation actuelle, de la guerre en Irak, le discrédit qui a été jeté des années plus tard sur la télévision fait que le complotisme d'aujourd'hui a créé l'extrémisme d'aujourd'hui. Enfin, beaucoup d'extrémistes.
Mais et oui, donc là, la télé est considérée comme un objet de rejet, puisqu'elle est considérée, grosso merdo, comme une soupe du système, ce qu'elle n'est pas du tout. Et je tiens à dire quand même...
Mais de base, en étant juste téléspectateur, on n'a pas le droit de répondre, donc forcément.
C'est le problème de l'écoute passive. C'est le problème de l'écoute passive. Et elle a cet avantage-là, c'est que l'écoute passive te laisse le temps de réfléchir. Tu sors d'un C'est ce soir. Bon, c'est pas la meilleure émission du monde pour plein de raisons, à mon avis. Tu sors d'un C'est ce soir, j'ai le temps de la réflexion. Et j'ai pas cette espèce d'instinct grégaire de vouloir répondre, faire une vidéo, etc. La télé a cet avantage énorme. Comme un roman, alors je compare vraiment pour la comparaison, elle a quand même cette qualité de te laisser face à toi-même et de te laisser réfléchir par toi-même parce que tu ne peux pas, entre guillemets, réagir au même moment qu'eux. Et ça, cognitivement, c'est ce que disent les études, c'est beaucoup plus sain qu'une réaction instantanée permanente. Sinon, tu crées des cerveaux d'enfants, grosso merdo. Comme un film, je veux dire, au cinéma, on réagit pas en gueulant contre le dialogue qu'on n'a pas aimé. On attend la fin du film, on réfléchit, on donne son avis. Le nerf de la guerre, c'est ça. En fait, c'est l'instantané. La télé avait cette puissance de raconter le réel présent en étant enregistré, grosso merdo. Et en fait, aujourd'hui, on fait tout l'inverse. Et je pense que ça va nous péter à la gueule. Et je suis très sérieux quand je vous dis que ça va nous péter à la gueule. Ça va très mal finir. Et c'est pour ça que je suis très pro-télévision, parce qu'au-delà du système, au-delà de oui, les journalistes, ils pensent tous la même chose, d'accord. Pardon, sur BFM, pas sur CNews ou sur LCI, j'ai quand même un tri de l'information qui est fait, quand même. Et j'ai surtout l'occasion de réfléchir par moi-même. Et pas d'être abondé en permanence par des interventions, etc. Mais c'est pour moi le nerf de la guerre, et ça concerne d'ailleurs tous les médias de façon générale, hein, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la radio est toujours le média le plus qui cause le plus de confiance chez les gens. Les gens ont une énorme confiance en la radio parce que les gens savent qu'en gros, ce temps long est bénéfique pour la connaissance et la, grosso merdo, la santé mentale.
Tu vois,
voilà.
Ça, la télé, mais au sens large, comme maintenant les contenus sur les plateformes ou les podcasts, ça fonctionne aussi.
Absolument. Et le podcast, en l'occurrence, pour moi, est vraiment le bel héritage de la radio et de la télé parce qu'on a ce temps long et on a la preuve ce soir, tu vois. Là, je suis pas en réaction d'un truc en direct, je réponds pas à une vidéo, un machin. Et à la fin, je sais que les gens, quand ils vont avoir écouté le podcast, ils auront pour eux ce temps-là de réflexion, qui est impossible aujourd'hui parce qu'on est sollicité en permanence. Et sincèrement, ça m'inquiète, vraiment. Au-delà de la télé, ça m'inquiète.
Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a la réalité économique qui fait que tu dois forcément te démarquer.
Ça, c'est vrai.
Et que du coup, tu dois forcément être toujours un peu plus dans la surenchère.
Ça, c'est vrai.
Et du coup, oui, ça force.
Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que la télé est financée par la publicité.
Absolument.
Donc en fait, même si c'est un média gratuit, c'est vous le produit.
Et oui.
Non, mais du coup,
le temps de cerveau disponible, souvenez-vous de TF1.
Coca-Cola.
Non, mais ça, moi, c'est.
C'est quand même une énorme industrie derrière. Tu fais pas ce que tu veux non plus. Quoi.
Voilà. Et ça veut pas dire que par contre, on est de mauvaise foi en télé. Enfin, voilà, je tiens à le dire quand même. La plupart des gens qui font de la télé déjà sont très sympathiques. En tout cas, plus sympathiques aussi, dans le milieu du cinéma, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, entre guillemets, la télé te raccroche toujours au réel. Quand tu fais de la télé, tu sais à qui tu parles. Et tu parles aux gens normaux. Mmh. Et ces gens normaux-là, aujourd'hui, à part TikTok et des gilets jaunes, ils ne sont plus ni représentés, ni adressés même par les médias. Et je trouve ça dommage parce qu'on est en train de les perdre. Et c'est con parce que la télé a une puissance de narration et de commun qui est
Oui, ben on en discute dans un instant parce que je pense que c'est central et que ça fait partie aussi de la façon dont on crée la télévision, de se rappeler de pourquoi on le fait et pourquoi depuis 40 ans on l'a fait comme ça. Mmh. Ouais, c'est une histoire, c'est aussi de l'artisanat, hein, c'est ce que j'aimerais raconter. On va écouter tout de suite Money for Nothing de Dire Straits.
Dire Straits.
Super. Parce que déjà j'adore cette chanson de 1 et de 2, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est sur l'histoire d'un employé d'un magasin d'électroménager donc qui installe des télévisions et qui, à un moment donné, tombe sur les clips d'MTV et toutes ces stars qui sont devenues en quelques heures ou en quelques semaines soit des stars du rock, soit des stars de la télévision et qui les regardent et qui se disent mais en fait, ils font de l'argent avec rien, quoi. Donc Money for Nothing, on écoute ça et on se retrouve juste après. Dire Straits, Money for Nothing, une chanson exceptionnelle.
Exceptionnelle.
Money for Nothing. Alors, le mec qui prend la voix de Jean-Pierre Mazon. Maxime, finis-nous un peu ton anecdote, là, parce que t'as commencé, on t'a coupé. Toi, tu disais notamment que t'avais pas de télé dans ta chambre.
Non, moi, j'ai jamais eu de télé dans ma chambre.
D'accord.
Alors, Lise se voyait en côté, genre, je fais la télé quand elle la regardait. Lucas et Gauthier, c'était plutôt côté animateur. Moi, c'était plutôt côté participant.
Moi, c'est marrant.
Ouais. Moi, ça m'a toujours flux.
Et bah montons une boîte de prod.
Attention, c'est pas tombé dans l'oreille.
Il manque juste venant si tu fais une émission.
De vouloir participer à des jeux. Tu vois, des cartes au trésor, des Koh-Lanta, même des jeux de questions de culture générale. Oui. Après, j'ai eu la chance de pouvoir en faire.
Oui, c'est vrai.
Pas forcément avec Grand
Prix. Non, mais t'en as fait beaucoup.
J'en ai fait deux, mais.
C'est bien.
En vrai, toi, vraiment, une fois que t'es rentré dedans, tu peux en faire 25 par jour, déjà.
Mais j'adore ça. Et effectivement, tu vois comment c'est fait et comme le disait Lucas, c'est un des endroits où t'es le mieux reçu. Tous les gens
merci
sont
de
adorables.
Le dire. T'es chouchouté.
Ouais, bon,
non, mais vraiment, faut arrêter de croire que la télé soit
à partir du casting. Alors qu'il y a un nombre de candidats sur des jeux comme ça. Enfin, des
jamais
t'as
mal
tournent,
été reçu, quoi. Jamais.
C'est ça, moi aussi, j'ai fait un jeu. T'es habillé, t'es maquillé, t'es chouchouté pendant toute une journée. On prend soin de toi. Bon, tout le monde s'intéresse à toi. Les animateurs sont adorables. C'est vraiment une belle
alors, ça dépend lesquels.
Oui, ça dépend lesquels, évidemment. Mais
quand t'as Olivier Mine en face de toi,
Olivier Mine, ça va. On va pas citer de nom, mais faut pas oublier justement que nous, quand vous reçoit en plateau.
Paroles après.
Non, mais vraiment, oui. Il y en a d'autres, on va pas faire la liste. Mais quand on fait les techos, quand ils font de la télé, ils savent que les gens qui viennent à Paris pour faire un jeu télé, pour eux, c'est déjà toute leur vie.
Oui.
Ouais. Moi, en fait, quand je regarde Slab, je me moque d'eux, les candidats, et je fais toujours des vannes dessus parce que, mais pardon, pour ces gens-là, c'est peut-être l'événement de leur vie. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité de la télévision à créer du rêve.
C'est des gens qui aiment la télé aussi.
Rien, c'est bien ce que je dis.
Quand t'es du côté producteur, c'est quand même les participants qui font ton émission. Donc en fait, si tu les
chouchoutes
pas avant, il faut qu'ils donnent tout.
Non, mais c'est vrai.
Donc il faut leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils vont tout donner, qu'ils vont gagner, qu'ils les regardent, bisous à leur grand-mère et tout.
Et c'est tellement mieux comme ça.
Mais tu sens pas que c'est faux cul.
C'est
pas
faux cul.
Ça l'est vraiment.
Vrai.
Je vous jure que non. Ça fait 10 ans que je bosse en télé.
Mais moi, je pense que dans 20 ans, c'est fini ça.
Je pense pas. Je te jure que non.
Ben, moi, je pense que dans 20 ans, c'est terminé.
Mais non, parce qu'on est là. Moi, et que moi, toute ma vie, si je bosse en télé toute ma vie, je ferai en sorte de garder cet esprit-là quand je fais de la télé.
Je pense que dans 20 ans, c'est plus un événement.
Franchement,
si,
parce que la Star Academy, on n'y croyait plus. Et là, on a tous regardé à nouveau de plein de manières différentes. Peut-être que c'est la manière de le regarder.
Ça représente très peu de gens.
Bah, quand même pas. Ça fait 48 ménagères, Wissem.
Oui, mais 48 de ce
Non, mais d'accord, le global est bon quand même.
30, c'est facile de faire 48.
D'accord, mais bon, pardon, les mariés le font pas.
Oui, mais, ça veut pas dire qu'il y a 10 millions de gens qui sont dans
d'accord.
la télé. Bah, oui.
Non, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que tu les vois de plein de manières différentes. C'est plus l'audience de la télé traditionnelle.
Le single de Pierre Garnet, si c'est pas une preuve.
Oui.
La puissance de la télé.
Excuse-moi, ils font 75 dates partout en France.
Oui, je dis pas que c'est pas un succès populaire. Alors, je dis que malheureusement, je pense que dans 20 ans, il y aura très peu de gens qui croiront encore à ça.
Eh ben, je pense pas.
Parce que vu.
Moi, je pense.
Je pense que vu la pente.
Non,
la pente sur laquelle on est.
Les gens vont comprendre.
Mais dans 20 ans, il n'y a plus que des bulles, il n'y a plus que des poches.
Oui, mais.
Il n'y a plus que des poches, il n'y a plus. Encore une fois, tout est une question de commun. Il n'y a plus, il n'y aura plus de commun.
Mais vous, j'ai l'impression que la télé, pour vous, elle est en train de mourir parce qu'il n'y a plus ce commun.
Oui.
Alors que moi, je suis aussi aujourd'hui contente de faire du contenu.
De niche.
Mais du contenu en général, pour abreuver tout le monde de plein de contenus différents. Mais moi, c'est ça qui continue à me passionner.
Oui, mais
ce
n'est pas inhérent à la qualité.
La télé, en sens écran télé dans un salon. C'est pas ça qui m'importe, c'est pas comme ça que je compte toucher les gens non plus, tu vois.
Je comprends, mais c'est pas inhérent à la qualité. C'est pas inhérent aux personnes qui la construisent.
Ça, c'est vrai.
Parce que tout le monde est d'accord pour dire que la qualité de la Star Academy était fantastique.
Ah oui,
surtout pour le
vrai.
Prix. Enfin, ça coûtait trois fois moins cher.
C'est génial.
C'est quatre fois moins cher qu'il y a 10 ans.
Parce qu'il faut expliquer quand même, la télé coûte moins cher aujourd'hui, parce que déjà pour des raisons techniques, tout coûte moins cher.
Oui.
Voilà,
la lumière,
en fait, c'est moins dû à la masse salariale qu'à la technique, en fait, parce que la masse salariale est à peu près la même.
Ça te coûte 4 fois moins cher que d'il y a 20 ans, en fait.
Clairement, ça coûte 4 fois moins cher, littéralement 4
vraiment,
fois moins cher.
C'est 4 fois moins cher.
On est passé d'un million à 250 000 l'émission.
Bah oui, ouais, bah,
un problème de Star Trek, c'est encore un million.
Pardon, dans quel pays
ça inclut.
Jamais de la vie, TF1 mais un million.
Oui, mais ça inclut la 2PS.
Ah oui, d'accord.
Et ça inclut. Mais bien sûr, ça inclut la 2PS et aussi le fait.
Ça inclut Galois du.
Même The Voice, faut expliquer. Un The Voice coûte. À l'époque quand ça a été vendu à TF1 1,1 million.
Ouais. Non mais tu
imagines 1,1 million, c'est énorme. 700 000 par exemple.
On est même un peu en dessous maintenant. C'est déjà énorme. On parle de sommes astronomiques. Hein. Mais en vrai, c'est pas tant que ça en comparatif de ce que la télé a coûté il y a des années.
Deux fois moins cher pratiquement.
Ouais, bien sûr.
Non, mais
et le look and feel est le même. Je veux dire, t'as pas la sensation de cheapisation de la télé.
Oui.
Moi, j'ai pas cette sensation-là en tout cas sur les gros primes de TF1.
Non mais c'est pas cheap. Mais c'est justement, c'est pour dire que la qualité, notamment la Star Academy, et c'est pas que de la thune. C'est aussi de l'intelligence. C'est le story. Ça coûte rien. C'est des équipes qui font ça depuis 20-30 ans. Mais elles ont ce talent-là, elles le racontent de la bonne façon. Mais je pense que c'est pas inhérent au fait que ça soit qualitatif. C'est juste le fait que les gens se sont malheureusement enfermés dans autre chose et que c'est très difficile d'aller les chercher. On peut aller en chercher de manière un peu parcimonique, notamment chez les jeunes de Twitter, effectivement, qui vont aller le consommer sur, sur TF1+. Oui, il y a d'autres manières de consommer, effectivement, mais je pense que c'est le mauvais débat. C'est le mauvais débat, le fait que tu regardes sur TF1+, ou
ça,
que tu regardes à la télévision sur ton écran, ça n'a rien à voir avec le fait que on perd du monde. On perd du monde. D'accord. Qui va ailleurs.
Oui, mais ils vont sur des choses qui, sincèrement, sont, entre guillemets, pas comparables.
Mais c'est moins bien, mais eux, ça leur plaît plus.
D'accord. Et tu ne penses pas que... Moi, je pense, ma théorie, c'est qu'on va sortir de cette ère réseaux sociaux, parce qu'en fait, tout le monde en voit la limite. La preuve, hein, les jeunes de moins, grosso merdo, des 2004-2005, ne mettent plus rien sur les réseaux sociaux. Plus rien. La mode, maintenant, se demander à ma sœur, hein, la mode, c'est plus de poster. Hein. La mode, maintenant, c'est de se cacher et de vivre ta vie à toi.
Je sais pas.
Alors ça, pour moi, c'est la rhétorique de la télé.
Je sais pas.
Je pense que le contenu commun va revenir très fort parce qu'il y a un manque social, psychologique, de passivité devant un contenu et de la vivre ensemble. Je pense vraiment qu'on va voir les limites des réseaux sociaux. Je pense qu'on survend. Là, on croit vraiment qu'on est dedans et qu'on va jamais s'en sortir. Je vous jure que l'espèce humaine va vous surprendre.
Lise, qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet ? Non, mais au pire, tu vas pas.
Non, mais parce que du coup, j'ai l'impression d'être une grosse boumeuse en postant plein de stories et tout.
Pas du tout. Mais
non, bah...
Moi aussi.
Donc je réfléchissais toi, ça va, t'es moderne, comme je veux situation. Dire.
En vrai, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, cette consommation acharnée, rapide, en zapping permanent, qui est un danger cognitif absolument algorithmique en plus...
Et moi, je suis tellement dedans, un peu bouffée par ça, genre je m'endors en regardant des réseaux sociaux.
Et t'arrives quand même à regarder la télévision classique,
dire. Mais, oui, j'arrive à la regarder, mais avec un œil maintenant, enfin où je vais voir les commentaires en même temps sur les réseaux sociaux.
C'est du commun ?
Oui, oui.
C'est du commun ?
J'essaye d'avoir un espèce de moment de partage avec des gens inconnus.
C'est bien ce que j'ai. Oui. On a peut-être adapté le commun d'une façon un peu différente. Alors, elle n'est peut-être pas aussi genuine, comme on dit en anglais, qu'avant. Mais pardon, effectivement, tu regardes un Qui veut épouser mon fils et tu regardes les vannes des gens sur Twitter. Moi,
je n'ai
pas l'impression de sortir de la société. Au contraire, j'ai l'impression d'être renforcé.
D'avoir besoin de ça en plus, parce que je me dis, putain, il avait la même vanne que moi.
Exactement.
C'est vrai que Miss France, sans Twitter,
Eurovision,
l'amour est dans le pré.
La Star Academy, c'était ça.
Et même le Bachelor, quand c'était sur la TNT, Greg Asher, qui animait les Bachelors, faisait le live tweet aussi, second degré.
Oui. Non, mais c'est
pas incompatible.
C'est le côté événementiel. C'est toujours. C'est comment est-ce que tu événementialises
le direct,
bien
ce qui va sauver la télé, c'est le direct.
Oui, non, ça c'est, oui, c'est l'événement, mais on le dit depuis des années, ce qui, le vrai qui est commun, c'est le l'événement
direct. Ouais, non, mais c'est un sujet qui est passionnant parce que
en même temps, que faire du direct de quoi, à part des événements sportifs, des trucs, puisque la Starac, moi, peu importe que ça soit en direct ou pas.
Ah, mais danse avec
les stars. Si, le prime, oui,
je suis pas d'accord.
Danse avec les stars, que ça soit en direct ou pas, j'en ai rien à foutre.
Bah, si, t'as l'enjeu de se bananer,
t'as la gamelle,
moins. C'est parce que je sais pas.
Tu sens les plans de coupe quand il y a les juges.
Ouais, c'est le problème.
Ouais, non, c'est mal fait. Après que ça soit mal produit, c'est pour ça.
C'est un autre sujet.
Non, c'est avec les stars.
C'est pas mal produit en vrai. Nous, on voit les ficelles parce qu'on bosse là-dedans.
Non,
c'est mal produit. Je suis désolé, c'est mal produit.
T'as une demi-heure de décalage et tout parce que t'as pas envie qu'il y ait d'impair.
Le téléspectateur lambda le voit pas.
Non, c'est mal produit.
Je te jure que non, Louis,
c'est beaucoup moins beau qu'avant.
D'accord, ça
c'est beaucoup moins beau. C'est beaucoup moins léché qu'avant.
C'est deux fois moins cher.
Bah peut-être, mais...
Je pense sincèrement que tu mets Danse avec les Stars d'il y a deux ans et maintenant à n'importe qui, il dit, bah c'est le même plateau.
Ah c'est sûr, c'est sûr. Même The Voice, hein, ils ont changé de plateau cette année, personne ne s'en est rendu compte. Hein.
Non, je pense que le desk,
nous, on le voit,
le desk global, c'était très important de le faire revenir.
Alors peut-être qu'il n'y a que moi qui l'aime, mais un programme comme L'Amour est dans le Pré qui n'est pas du tout en direct, enregistré des mois à l'avance...
Magnifique.
Pour moi, c'est un truc qui rassemble quand même parce qu'on se reconnaît dans les persos qu'on
voit.
Oui,
mais t'as pas dans le programme le moment de l'instantanéité où vraiment...
On n'en a pas besoin, mais c'est un truc qui marche dans le commun aussi.
Ça marche parce que c'est ultra storytelling.
C'est secret. Oui, c'est ma raison sur ça depuis des années. Il faut raconter une histoire.
Il faut raconter une histoire sur n'importe quoi. Le plus important, et à notre moindre mesure aussi, on nous moque un peu quand on en fait des caisses sur plein de trucs et tout.
C'est vrai.
Mais je pense que c'est important d'événementialiser même des petits trucs.
Ouais, on parle de divertissement, mais c'est aujourd'hui la fiction qui rassemble plus à la télé, notamment parce que le public vieillit et tout,
mais
ça fait encore des millions de téléspectateurs. Ça, peut-être qu'on s'y connaît un peu moins tous, parce qu'on est plus dans le divertissement, mais je pense qu'il y a une vraie pouvoir de l'histoire aussi à travers...
Mais personne ne live tweet une série.
Maxime.
Non, je suis plutôt pas d'accord avec ce que tu dis, Soro. Il faut tout faire une histoire de tout. Moi, des fois, ça me saoule quand dans Koh-Lanta, vraiment, ils sont en plein milieu d'une épreuve ou je ne sais quoi, et là, faut parler du père qui est mort.
Ah, ça, je suis d'accord.
Faut parler du machin. Ouais.
Ah, mais ça, mais moi, je pense que ça, c'est pas du storytelling.
Ça, c'est fake. C'est vieille recette.
Mais ça, c'est pas du storytelling.
C'est vieille téloche.
Le storytelling, c'est justement ce que tu arrives à peine à voir parfois. C'est-à-dire, à l'échelle globale, quand tu regardes les 10 semaines, tu vois une énorme histoire qui s'est nouée avec quelqu'un et qui ensuite s'est dénouée. T'as l'impression que c'est naturel, mais en fait, tout a été monté en épingle de manière hyper dramatique. Pourquoi ? Parce que ça a été écrit comme ça. Au montage, ils ont volontairement décidé, pendant 5, 6, 7 épisodes, d'accentuer un point particulier de l'émission pour qu'au 7e épisode, il y ait une espèce de twist qui va laisser tout le monde sur le carreau. Moi, je vois ça comme un vrai artisanat. Ouais, l'écriture, le montage, la manière dont tu racontes l'histoire, que tu vas venir faire un climax, c'est parfois très invisible, mais ça change tout. Mmh. Et effectivement, les petits détails du type on en fait des caisses, c'est très ponctuel, ça te fait des petits frissons ou pas.
Moi, j'adorerais un Koh-Lanta, pardon Maxime, où typiquement, il y a un collier d'immunité qui sort au conseil qui nous a pas été montré avant.
Mais tu peux pas. Mais tu peux pas.
Et tu fais un flashback après.
Tu ne peux pas justement pour le storytelling. Parce que tu perds du monde et parce que tu perds la confiance chez les gens, parce que les gens vont dire, ils nous ont...
Tu fais un flashback ?
Non, parce qu'en fait, c'est trop obvious chez les gens. Ils vont te dire, mais ils nous ont caché ça. Et donc, tu révèles
mais pardon,
les ficelles.
Quand Scorsese le fait, personne ne dit rien. Hein.
Qui ?
Quand Scorsese le fait dans un film, personne ne dit rien.
Dans une fiction.
Non, il micro-tente de le faire maintenant, par exemple, dans Les Traîtres, où on ne nous annonce pas tout de suite qu'il y a le
troisième traître. C'est excellemment bien produit, par exemple, Les Traîtres.
Parce que tu fais jouer le spectateur. Koh-Lanta, personne ne veut jouer. Personne ne veut jouer dans Koh-Lanta. Quand tu regardes le programme, il n'y a aucun intérêt à jouer.
Un épisode où tout le monde cherche un collier parce qu'il y a le conseil ce soir, tu dis, est-ce que quelqu'un a trouvé un collier ? Vous le saurez en regardant le conseil, tu vois.
Oui, pourquoi pas ? Mais je te dis, moi...
Mais tu peux pas, c'est pas une enquête, Koh-Lanta. Tu vois.
Exactement.
Tu vas pas
chercher
qui...
Bien être des fois.
Ah putain, Charlotte, elle a une bosse dans son slot, elle a fait un collier.
Parce que le spectateur est omniscient. Le spectateur doit tout voir. Ou
et
alors,
ça,
doit être dans une position où il croit qu'il voit tout et il croit qu'il comprend tout ce qui se passe.
Et que là, il y a tellement de stratégies et tout que nous, le spectateur, on est dans la confidence de toutes
exactement.
Ces stratégies. Pour le coup, c'est
l'omniscience à la télévision, c'est hyper engageant. C'est très engageant.
Oui,
t'as l'impression
mais c'est
de tout connaître.
C'est piégeux parce que grosso merdo, en télévision, et Maxime, il a raison sur ça, on a grosso merdo la même façon de monter les émissions depuis 20 ans. À quelques exceptions près qui d'ailleurs souvent n'ont pas marché parce que quand tu changes les habitudes des gens c'est compliqué. Je pense qu'en télévision
de la téloche, c'est ce qu'on appelle quand on dit
bien sûr,
de la téloche.
Mais la téloche ne peut pas s'interdire de changer son langage de temps en temps. En vrai, je vais pas les défendre mais la vérité c'est ça, c'est que Netflix sur certaines émissions, je pense par exemple à Too Hot to Handle. Non mais pardon, ça c'est pas
mais...
Non,
mais
c'est exceptionnel.
Ah, mais c'est incroyable.
La narration n'est pas habituelle.
Mais en quoi ça change ? Explique-nous parce que moi je comprends pas.
Non mais grosso merdo,
j'ai pas regardé le programme.
Cette émission déjà
c'est le programme juste pardon.
Alors grosso merdo, c'est tu prends 12 cotards et tu leur interdis de baiser pendant 2 semaines.
D'accord.
Et s'ils baissent, la cagnotte baisse pour tout le monde.
C'est énorme.
En fait Netflix, oui, les plateformes, elles ont juste inversé les règles de tous les programmes et là on s'est dit waouh. On prend une claque parce que c'est tellement nouveau.
Alors qu'il n'y a rien.
Oui.
Elles ont juste eu, entre guillemets, pas le courage parce qu'en fait, elles ne savent pas ce qu'elles font. Ils ne savent pas faire de la télé, ces gens-là. Oui. Je veux dire, j'ai travaillé, j'ai pitché à Netflix, j'ai parlé aux gens qui sont, je ne vais pas citer de nom, t'as des buses. Hein. C'est des gens qui ne connaissent rien à la télé. Rien à la fiction non plus, à mon avis, mais peu importe. Ces gens-là, comme ils n'ont pas d'a priori, enfin, ils n'ont pas d'habitude télé puisqu'ils ne la regardent pas, ils se permettent des choses que la télé ne se permet plus. Des twists, du mensonge. Cacher des choses aux téléspectateurs. Or, les gens veulent voir ça en ce moment. La meilleure preuve, c'est quand tu vas sur TikTok aujourd'hui, dans beaucoup de vidéos narration, je pense à Amy, la boss d'Alexis par exemple, ou des gens comme ça, l'internaute lambda n'est pas du tout choqué parce qu'on lui casse des choses. S'il comprend pourquoi on lui a caché, je vais voir un Nolan, si Nolan m'explique pourquoi il m'a caché ça, je vais le comprendre. Et la télé, pendant des années, s'est interdite ces nouvelles narrations, par peur de perdre l'audience. Et elles ont raison, parce qu'en vrai, les audiences baissent quand tu fais peu d'originalité.
Mais là, il faut un énorme
mais là, il est temps. Là, il faut que la télé se réveille, en gros, et il faut qu'elle ose des twists, qu'elle ose cacher des choses, qu'elle ose des formes, ou même des concepts,
Et ça, au moins, les plateformes, ça a permis l'ouverture.
Et ça me désole, parce qu'elles ne savent pas le faire.
Parce que le risque, c'est uniquement quand tu as de la thune, et comme Netflix, tu peux te permettre de mettre
bien
sûr. Tu peux faire un million dans l'épisode, ça marche pas, ça marche
d'accord,
pas.
D'accord, mais pardon, en fait. Netflix, c'est pas rentable.
Bah oui, mais ils s'en foutent.
Oui, mais à un moment, ça va arrêter, à un moment, il y aura une bulle, ça va sauter, tout le monde va fermer.
Non, parce que les investisseurs sont très confiants, ils ont raison d'être confiants parce que tu verras que ça finira par ramener de l'argent.
Pardon, par exemple, sur Amazon Prime, faut pas oublier, ça je le rappelle toujours aux auditeurs.
Non, mais ça, c'est notre abonnement juste pour les livraisons.
Voilà, Amazon Prime, tout ce que vous voyez sur Prime Video, c'est de la vitrine. C'est l'équivalent. d'un paquet, d'un disque de jeux vidéo qu'on vous offrait dans les Kellogg's. Oui. L'argent de Prime, déjà, c'est les serveurs. Hein, je veux dire, Amazon, c'est l'argent qu'ils gagnent, les milliards qu'ils gagnent, c'est les serveurs. Hein, c'est pas du tout le retail.
Vrai.
Ils veulent juste que vous achetiez dans du retail. Donc, en gros, Haunted, Celebrity, machin, LOL qui ressort, c'est gratos. Grosso merdo, c'est que pour que vous veniez acheter
Ils veulent pas mettre plus pour la Ligue 1.
Ils veulent pas mettre plus pour la Ligue 1. Tu as tout à fait raison, Gauthier, c'est une très bonne remarque. Donc, il faut aussi savoir comment chaque chaîne réfléchit. Mais je trouve ça quand même dingue que ce soit Amazon qui aille sur LOL qui ressort, alors que, pardon, cette émission, tu la mets sur M6, ça fait 6 millions de téléspectateurs. Pourquoi M6 n'est pas allé ? Mais pourquoi ?
Mais parce que pour le fric que ça coûte pour une journée...
Oui, d'accord.
Mais parce que tu le binge-watch, parce que c'est pas un programme de Prime, t'as pas envie de regarder avant 21h en famille.
Et ben, je suis pas certain. On est tellement obsédé par les plateformes en ce moment qu'on se rend même plus compte que tout ça, on aurait pu le faire il y a 15 ans. Et ça me désole, parce qu'en fait, c'est juste un manque de courage, parce qu'on a des vieux boomers en chaîne. Enfin, ça me rend taré.
Maxime. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus cette réalité économique où tu ne peux plus permettre de faire un four.
Je sais.
Combien de d'émissions TF1 après les premières télé-réalités où ils ont lancé des trucs comme Le Royaume.
J'adore. C'est un gros bide. Ça, c'est vraiment le bide, ouais.
Mais qui font storytelling de deux épisodes.
Alors, mais ils préfèrent les déprogrammer tellement ils perdent de thunes sinon. Quoi.
Ouais, à l'époque, ça coûtait très cher. Pardon, Koh-Lanta, tout le monde a oublié. Première saison de Koh-Lanta n'était pas un succès. La première saison de Koh-Lanta a été diffusée un samedi après-midi de mémoire ou au dimanche après-midi.
Samedi dimanche à 19h.
Merci Gauthier. Ça faisait à l'époque
en 2001.
Ça faisait 20% de part de marché. 20% à l'époque, c'est l'équivalent de 15% aujourd'hui, voire 5%.
Surtout sur TF1 où TF1 les standards c'était 30%. Hein.
Et oui, c'est bien ce que je dis. Or TF1 insistait. Et pardon aussi, la force de la télé, c'est qu'elle a quand même un peu plus de temps long pour installer des choses. Combien de marques se sont installées au bout de 2 ou 3 saisons? Le meilleur exemple, c'était TPMP, qui pourtant joue particulièrement sur cette connexion au réseau. TPMP, faut pas oublier que grosso merdo, jusqu'en 2013, ça faisait 400 000 téléspectateurs.
C'était deuxième partie sur France 4.
Et ça a été rentabilisé depuis, pardon.
Ça dépend vraiment de la force de l'investisseur, parce que par exemple, Qui veut être mon associé, la première saison, ça marche pas. Il y a juste Nicolas Taverneau, qui est très financier, très entrepreneur, qui y croit. Et il la laisse, mais par contre, il y a d'autres trucs qui déprogramment au bout d'une semaine parce qu'il aimait pas.
Bien sûr.
Quand même
mais par contre, Nicolas Taverneau est un bon chef d'entreprise.
Oui,
et il connaît, pour le coup, lui, il connaît vraiment la télé.
Non, mais c'est juste que c'est du placement de produits. En plus, enfin, ils se font couilles en or pendant une heure et demie et pendant 8 semaines.
Bon, on va se retrouver dans un instant parce que c'est passionnant. Hein, là, on va se retrouver dans un instant pour se dire au revoir, en fait. Bah, je suis désolé, mais vous me dites ça toutes les semaines. Mais
là,
on
se dit. Il faut faire la conve, la suite.
Bah, on refera une conve. Mais là,
Franchement, VMR Télé, on peut en faire 5.
Non, mais c'est bien d'avoir commencé sur un truc un peu plus large et on ira plus précisément dans d'autres éditions. On va s'écouter un peu de musique, hein, la dernière fois de 7h. Hein, je pense qu'on va se faire Gold.
Ah, voilà, encore ?
Tant qu'on ne s'est pas fait Gold.
Ouais, ça fait au moins 2 semaines.
On va faire. On a fait quoi ? On a fait.
Plus près des étoiles pour l'espace.
Capitaine abandonné. Mets-moi Capitaine abandonné, je t'en supplie.
Allez, on met Capitaine abandonné. Oh. Magnifique chanson.
Capitaine abandonné.
Ah. Non, j'aime pas maîtresse. Non, Capitaine abandonné, c'est très bien. Donc on se fait un petit Gold. Aucun rapport avec le sujet. Hein,
J'aurais mis SOS d'Intérieur en détresse.
Ah oui,
on l'a déjà mis dans l'émission malheureusement.
Les versions grecques.
Et Video Kill with the Radio Star par exemple.
J'ai pensé, mais on a fait un petit dernier thread, c'est pas mal déjà. Donc écoute, on se quittera avec ça. Bon. Allez, on écoute un peu de Gold et on se retrouve dans un instant.
La conve de Vaut mieux en rire. We'll be right back.
Nous sommes de retour dans la conve et on va parler de Danse avec les stars d'Internet. Voilà, donc parce que vous vouliez en parler, on va en parler un petit peu. Donc, est-ce que quelqu'un peut rappeler, Gauthier, ce que c'est que le format ?
Alors, c'est le format de Danse avec les stars, mais animé par Michou, qui a participé à Danse avec les stars il y a 2 ou 3 ans.
Le fromager.
Non, et... non, pas la vanne interdite.
Vas-y, Gauthier, vas-y. Sinon, on est là jusque demain.
Et adapté avec des youtubeurs. Il y avait 6 youtubeurs, je crois, au départ.
Au du panier, en plus. Hein.
Voilà, oui, de, ouais. Dont Domingo. Et c'était diffusé le samedi à 21h sur la chaîne Twitch de Michou. Disponible dès le lendemain sur TF1+, la plateforme de TF1. Et aux surprises, on ne nous l'avait jamais dit, mais c'était prévu à l'avance. Rediffusé le vendredi suivant, en troisième partie de soirée, à la place d'Arthur.
Suivant
Ouais. C'est-à-dire que c'était le samedi en
direct. Ah, mais je pensais que c'était.
Ah, mais non. Ils n'avaient pas diffusé le jour d'avant.
Mais non, mais je pensais que c'était en direct sur TF1 et Twitch en même temps.
Non, non. Les deux premiers épisodes, c'était intérêt. Le samedi à 21h sur
c'est
Twitch.
Vraiment nul, hein.
Ensuite,
ils sont cons comme la lune.
Le vendredi d'après sur TF1.
Alors, et sur TF1+.
Et sur
temps,
TF1+.
Vas-y, Maxime, vas-y.
Non, la genèse du projet, c'est le The Event. Si je dis pas.
Ah ouais, alors,
quand, tu veux un scoop c'est moi qui ai proposé l'idée en premier chez BBC quand
mais
j'étais
non.
encore. Mais bien sûr que
mais
si.
Non.
Mais tout le monde dit. Enfin, tout le monde l'a fait, proposer une version web. Enfin, je veux dire, c'est le niveau zéro du dev. Hein.
La genèse, c'est un des goals du The Event. Donc, c'est un événement caritatif où. En fait, en fonction de l'argent récolté par le streamer s'engage à réaliser une des actions qu'il a proposées. Et Michou, juste après être sorti de Danse avec les stars, c'était si j'atteins, je sais pas, 50 000 euros de dons, j'en sais rien, je fais Danse avec les stars sur Internet. Et je pense qu'il a voulu bien le faire. Et il s'est dit, c'est l'occasion d'aller voir la BBC et de le faire correctement. D'où le fait qu'il ait acheté les droits et qu'il soit mis en partenariat avec TF1 pour le faire. Ça commence de là. Après, effectivement, je pense qu'il n'avait pas le choix de le faire, de proposer à BBC.
Non, mais c'est le plus grand succès de sa carrière.
Mais oui, bien évidemment.
Non, mais c'est le plus grand succès de sa carrière. Des gens qui nous disent depuis 10 ans.
Oh, pas Michou.
Des gens qui nous disent depuis 10 ans. Oui, mais Léo, mais les autres, ils ont
les autres
quoi,
peut-être. Bon.
Les autres, oui.
Des
en tout cas, ils le pensent.
Des gens qui nous disent depuis. Oui, voilà. Après,
ce
il y a
qui n'est pas pareil.
Voilà. Des gens qui nous disent depuis 10 ans qu'ils ont mis la télé par terre. Leur plus grand succès de leur vie d'Internet, c'est Danse avec les stars. Non mais je sais pas. Enfin ouais. Moi ça me.
Non mais
je vais en perdre
moi,
la tête.
Moi je m'énerve pas sur ce sujet-là parce qu'en fait je trouve ça très ironique et je trouve que c'est une belle conclusion à ce qu'on annonçait il y a 10 ans. Et il y a déjà 10 ans, on vous disait de façon à la fin, une bonne histoire c'est une bonne histoire.
Oui,
et le
raison.
Savoir-faire des
tu
bonnes histoires, il est en télé, il est pas sur Twitch. Alors j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là. Bon, Michou en l'occurrence, je suis pas de sa génération. Moi c'est pas ma cam, je le trouve bête comme un ballon ce garçon. Peu importe. Domingo, par exemple, c'est un garçon très intelligent.
C'est pas le pire, Michou.
Domingo, il fait de la télévision, il fait pas de YouTube.
C'est le premier à le dire, d'ailleurs, c'est le premier à le dire, Domingo, il a, entre guillemets, pris tous les bons aspects de la télé, il a injecté effectivement un chou, il y a plus d'instantané, qui manque encore un petit peu à la télé aujourd'hui. Et il faut aussi que la télé...
Regardez TPMP.
D'accord,
hein.
D'accord, mais en vrai, TPMP, c'est la fausse interactivité. La vérité, c'est que c'est encore des vieilles recettes. Je suis désolé, moi, je trouve ça très boomer, TPMP, et la preuve, c'est que la moyenne d'âge, elle a 54 ans. Elle est pas à 32.
Non, mais elle a 54 depuis qu'ils ont... Non,
mais
attends,
pardon.
Je
sais, mais la vérité, c'est que TPMP, c'est pas une émission de jeunes, c'est pas vrai.
Non,
ça faut arrêter
ça
avec ça.
Ça l'était avant.
Si.
C'est une émission.
Si. Ça, c'est un mythe créé par Hanouna.
Mais TPMP, plus tu rentres dans l'émission entre 19 et 21h, plus le public vieillit. Et c'est pour ça aussi que C8 a les rediffs des fictions de France 3 à 21h.
Mais c'est pas pour ça qu'il y a la rediff. C'est le public a vieilli parce qu'ils ont mis la rediff et qu'ils ont voulu élargir l'assiette.
C'est pas faux.
Mais ils ont pas perdu les jeunes. Ils ont juste ramené plus de vieux. Donc la moyenne d'âge a augmenté. Dis-moi.
Reste qu'aujourd'hui, pour attirer un jeune de 15 ans, et j'en prends la preuve d'Alce avec les stars d'Internet, c'est qu'en fait, il faut pas faire du Twitch, il faut pas faire un bureau avec des doigts crasseux sur un clavier, il faut raconter une belle histoire.
Non, il faut le faire avec les personnes auxquelles il s'identifie.
Oui.
Comme la star, c'est la Star Academy.
Il faut pas juste foutre une personne comme Michou. Là, il y avait tous les
gens. Il s'est bien débrouillé en vrai, sincèrement.
Mais bien sûr, mais sinon, c'était un des participants de l'émission globale. Là, il y avait juste tout le monde que les jeunes connaissaient.
Dans un casting global de Dals, il faut que tu aies quelqu'un qui parle aux jeunes, quelqu'un qui parle à la ménagère.
Il est là le problème. C'est que Twitch ne parle qu'aux moins de 30 ans et la télé doit parler à tout le monde. Mais c'est le nerf de la guerre, en fait. On peut pas. En fait, on compare toujours Twitch à la télé. Twitch, grosso merdo, et je vais être excessif pour que tout le monde comprenne bien. C'est Boomerang, c'est Tigi.
Oui, tu as raison.
On parle pas de la même
c'est
cible.
C'est Gulli, tu as raison, c'est Gulli.
Et en fait, les gens de,
mais
pardon,
raison, mais
les gens raison. De les gens de Twitch aujourd'hui, dans 10 ans, et je vous le signe ici, ils regarderont la télé comme tout le monde. Parce que quand tu vieillis, tu n'as plus besoin d'affect, tu as besoin de raison. Et la raison, tu ne l'as pas sur Twitch, tu l'as grosso merdo en télé et sur YouTube, parce que je suis un défenseur de YouTube quand même, on trouve des contenus sur YouTube qui sont au niveau de la télévision.
Oui.
Mais la
ça dépend les prods.
Bien sûr. Et il est temps que la télé aussi fasse son autocritique. Le vrai problème de
son
Twitch.
Son autocritique d'elle-même.
Exactement. Pendant des années, cette télévision-là n'a même pas voulu entendre parler d'une génération qui est arrivée.
C'est vrai.
Et je suis le premier concerné, j'ai entendu des choses. Ouais,
Ah, mais c'est Pascal Nègre et le streaming.
C'est bien ce que je dis.
C'est
aussi dans le documentaire, par exemple, de Squeezie, quand il dit qu'il a été invité par Ardisson. Ouais,
bon,
s'est fait
ça,
chier
ouais,
dessus.
Après, bon, ça, Ardisson, c'est Ardisson.
Oui, mais bon, non, mais qui s'était fait chier dessus dans une télé aussi, alors que c'était.
Mais c'est aussi parce que c'est
assez révélateur.
Il fallait accepter ça, tu vois, le mec qui est suivi par des millions de gens.
Oui, et c'est aussi parce que c'est une génération, la génération Squeezie. Qui n'a jamais été mis face et voilà. À une contradiction ou à un hater.
Oui,
parce que
tout seul chez toi,
ce que je comprends pas dans cette
et
génération.
Et quand j'écris un livre et que je suis invité par Ardisson, je me fais pas chier dessus de cette manière-là non
plus.
En
vrai,
vois,
si,
je...
parce que c'est Ardisson.
Oui, alors ça aurait été Ardisson, eh oui, mais bon. Je pense que.
Mais moi, c'est apathique. Non,
moi, je pense que c'est inhérent au fait que ces gens ne tolèrent pas des gens qui ne sont pas d'accord.
Ils peuvent pas
avec
tolérer,
eux.
Ils n'ont pas grandi dans ça. Ils ont vécu dans une bulle dans leur bureau toute leur vie.
Mais c'est fascinant. C'est-à-dire que le hater. Mais pourquoi est-ce que le hater c'est devenu quelqu'un à abattre, à exclure ? Je te parle pas de harcèlement.
Oui,
je te parle
oui,
de quelqu'un
oui.
qui à un moment donné n'est pas d'accord et l'exprime.
Bien sûr.
Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Dans le parce que c'est pas bienveillant. On a mis la bienveillance.
On va en sortir de ça. Je
on
sais.
A bien on a c'est mis la bienveillance un petit peu trop pour moi sur plein de sujets. Mais après mais ça c'est.
Bon, on le voit dans plein d'émissions. Maintenant il faut plus rien critiquer.
Oui, non, tu peux plus rien dire non.
Oui enfin oui. Sauf que CNews fait 3,2% ce mois-ci. Donc à un moment l'argument de la bienveillance, la vérité c'est ce qui marche.
Mais parce qu'il y a avec des boomers. Attends mais même dans le Div tu as raison. Dans le Div
tu as raison.
Dans le Div The Voice il n'y a plus une critique.
Le format veut ça.
Eh oui.
Il
eh
est vendu. Oui, voilà.
Avant, quand ils se retournaient pas, ils leur disaient ça me
oui,
plaît
oui,
pas.
Non, mais
tu
on regarde la nouvelle star avant, ils disaient des dingueries. Aux
oui,
gens
voilà.
Qui
j'adore. Les amis, c'est terminé.
Non, on peut en parler. Le problème de la télé, c'est que je peux en parler pendant 4 heures, gars.
Oui,
tu
je
vois.
Sais, mais là, c'est pour ça, si on ne s'arrête pas, on est là jusque demain. Donc. Et moi j'ai quand même un déménagement. J'ai un petit déménagement.
T'as une télé ou pas chez toi d'ailleurs?
Alors je vais pas révéler.
T'aurais dû commencer par ça.
Je vais
qui
pas
est
trop.
La télé, en
je
fait.
Vais pas trop révéler de mon nouveau lieu de vie.
Ça va, t'es pas Damary Lévis non plus, tiens toi. Hein.
Oui c'est vrai. mais effectivement la première chose, mais évidemment quand j'ai designé mon espace de vie.
Ah mais moi c'est la première.
Télé
chose,
ou
télévision.
Vidéoprojecteur.
Non télévision.
Projo Apple télé quoi.
Non télévision.
Projo c'est pas au niveau les gars.
Le jour où il y aura un projecteur qui aura la même qualité qu'une télévision, oui.
Un projo à 1200 nits, non.
Non, pas ça. Pour moi, en tout cas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de projecteur qui me permette.
Je te jure que mon frère, il a un truc 4K qui te.
Ah bon,
projette comme Jason, il a un super projo. 50 cm de ton mur. Alors, le truc
4K,
le,
avec des noirs intenses comme voilà. Dans une télé OLED.
Avec voilà. Des noirs intenses comme une télé OLED.
On parle de couleurs et d'HDR, on parle pas.
Ah, c'est
de...
parce que le mur est noir derrière.
Ah oui. Oui. Tu sais, t'as vu la profondeur du noir? Bah, t'as un mur noir quoi.
Bah, en vrai, c'est pas con. Hein.
Non, mais attends,
t'as peut-être une idée pour Samsung là. Hein, tu vois.
Mais le jour où ils feront
un
projecteur.
Avoir un mur noir, autant avoir une télé finalement. Je pense moi, c'était peut... pour paniquer l'espace. Mais...
Je pense qu'on peut terminer cette émission sur une touche mobilière. Hein, parce que c'est toujours intéressant. Merci d'avoir été là hein, autour
merci
de la table.
Wissem.
Merci de nous avoir accompagnés. C'est encore très intéressant parce qu'on a appris plein de choses sur votre vision, sur les origines de votre passion. Et on se retrouvera bien sûr pour un autre épisode avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année,
ah oui.
On va refaire un truc sur la télévision.
Téloche.
On va faire un truc sur la télévision. On,
la
ira,
téloche, Lise.
On parlera d'autres sujets.
Téloche, je peux en parler pendant
deux heures.
Voilà, bah, mais merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission exceptionnelle autour de la liberté sexuelle.
Exceptionnelle.
Très émouvant. Franchement, très émouvant. On s'est régalé. Et puis, bien sûr, là, on est parti jusqu'à la fin de l'année. On est parti jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au prime final.
En non-stop.
Et voilà. Pas de vacances pour vaut mieux rire non plus.
Pas de vacances et jusqu'au prime final qui sera donc
cramé, gars.
La pomme de terre dans tous ses états. La pomme de terre dans tous ses états. Donc ça durera 2 heures. Voilà.
Oh, bah,
c'est ça qui durera 2 heures.
Il y aura peut-être une dégustation.
Ah voilà. Ouais.
Vous verrez.
Des binges, tu déconnes
vous
ou pas.
Verrez, mais ça sera inédit et ça sera filmé aussi. Voilà.
Oh.
On filmera. Oh. Oui, oui.
Mais d'ici là, on aura trouvé un partenariat avec Tefal. Qui va nous sponsor avec des caclons.
Je vais vous faire une truffade, vous êtes pas
prêts. Ah ouais, ah j'adore. Un aligo, meuf.
Bah,
à
deux,
sa part, en prod.
On fera une dégustation à l'aveugle.
mais attends, la pomme de terre, c'est la star de cette émission.
Ah, je suis très patate, moi, attention. Hein.
Et évidemment, on va rendre hommage à la pomme de terre avec Video Kill the Radio Star.
Oh.
Parce que oui, il y a encore des stars. Et pour moi, la pomme de terre, c'est la star de mon cœur. Et vous le verrez dans l'émission
avec
spéciale.
Avec Eric Ciotti.
Oui, qui est la même personne que Vico.
Qui
est
d'ailleurs Monsieur Patate hein, dans le Toy Story 5. Hein. Il a annoncé.
Announce. Eric Ciotti has been announced.
Et Buzz d'éclair n'a rien fait.
Et on embrasse tous les Vicos.
Merci à tous. Un petit peu de rock'n'roll.
Ouais, un peu de rock'n'roll. Mais t'hallucines.
Et on se retrouve la semaine prochaine dans la conve et dans Vaut mieux en rire dès ce week-end avec une autre bande.
Avec un immense plaisir.
J'écouterai avec plaisir.
Je suis pas là.
Je vous embrasse, à bientôt.